Gapozienne, Gapozien et ceux des alentours, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de votre radio préférée, à savoir Gapo FM 100.9. Et ce soir, j'ai un plaisir non dissimulé de recevoir mon ami d'enfance dans l'émission Sans Filtre by ALM, Monsieur Philippe Gallerin. Et, détail notoire, en plus d'être mon ami, nous avons passé toute notre enfance ainsi que notre adolescence ensemble, car lui habitait au numéro
43.
Au 43 de la rue des Quatre Frères Bernard, je ne me trompe pas, et moi un peu plus avant à la placette Clémenceau. J'ai apporté cette précision pour nos auditrices et auditeurs cuersois. Donc Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté mon invitation, car vous connaissant un peu, je sais que vous n'aimez pas être mis en avant, car vous êtes un garçon discret, mais pas dénué de sentiments envers les autres. Je dirais simplement que vous préférez être dans l'ombre plutôt que dans la lumière, mais ce soir, un peu comme Andy Warhol, l'avait prédit en 1968, cette phrase ô combien célèbre que j'ai légèrement modifié comme à mon habitude. In the future, everyone will be world famous for 45 minutes. Donc je vais demander la traduction à mon ami Philippe qui est polyglotte.
Chacun peut être mis dans la lumière pour 5 minutes.
Alors là, j'ai rectifié, c'est 45 minutes parce que l'émission durera 45. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai modifié.
45.
Voilà, 45 minutes. Merci Philippe. Donc, comme je sais que vous êtes polyglotte, donc je vais demander de traduire, de traduire en français pour toutes les personnes qui sont à l'écoute et qui n'ont pas fait anglais première langue, bien sûr. Donc, la traduction a été faite. Donc, merci Philippe. Alors, je rappelle que cette émission est réalisée en direct et bien que préparée à l'avance avec mon interlocuteur, je titille toujours un peu mes invités sur des questions épineuses, parfois brûlantes, mais sur lesquelles ils répondront sans détour. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Une scolarité sans histoire sur Cuers, et après le CES, la Ferrage, où vous avez obtenu un BEPC.
Oui, tout voilà, à fait. Ouais.
En poche, votre parcours professionnel commence.
Alors, j'ai réussi en troisième le concours de l'EFT, l'école de formation technique de l'Arsenal de Toulon, ce qu'on appelait plus communément les apprentis, où donc j'ai passé 2 ans en tant que chaudronnier. Chaudronnier tuyauteur. À l'issue de ces 2 ans, étant cuersois, j'ai intégré la sous-direction aéronautique du port de Toulon, qui est devenue aujourd'hui un AIA, où j'y ai passé pratiquement, je dis 15 ans, mais 14 ans et 8 mois. Voilà, en tant que chaudronnier dans un premier temps, puis préparateur méthode dans un second temps.
Alors ça, Philippe, je vous coupe, c'était sur Toulon ?
Non, c'était à Cuers.
Ah, c'était à Cuers. Alors, oui. Comme vous avez parlé de Toulon, je me suis un peu mélangé les pinceaux.
Toulon, l'école, et la partie professionnelle à Cuers, ce qui est aujourd'hui un AIA, qui était à l'époque la sous-direction aéronautique du port de Toulon, quand on était à la DCAN.
D'accord. Alors c'est là que je vais apporter une rectification importante, parce que vous m'avez dit que vous avez passé 15 ans sur Cuers.
Oui.
Oui, c'est ça. Et Votre titre exact, c'était ouvrier spécialisé. Alors que moi, je vous ai mis en avant, j'ai mis ingénieur. Mais j'ai dit, dans l'âme, c'était un ingénieur. Mais il n'était, on va dire, qu'ouvrier spécialisé. Mais c'est déjà beau.
Non, pas du tout. Je n'étais pas ingénieur. J'en étais même très loin. J'étais ouvrier d'État. Donc, dans un premier temps, chaudronnier, tuyauteur, puis mécanicien de cellules. Et puis, par le biais d'un petit concours interne, j'ai intégré le bureau de fabrication des méthodes dans l'atelier qui s'appelait Mécanique Générale.
Voilà, c'est parfait. Là, vous avez passé 15 ans. 15 ans. Et vous m'aviez dit que c'était là que vous étiez un des plus jeunes de la promo.
Oui, étant de la fin de l'année, oui, je suis arrivé à Cuers, je n'avais pas encore 18 ans et j'ai mis un an avant d'être régularisé ouvrier d'État, oui, complètement.
Voilà, à précision apportée. Ensuite, vous quittez Cuers pour une société, alors c'est toujours un petit clin d'œil, qui se situe à Solliès-Pont.
Alors, dans un premier temps, quand je travaillais dans ce bureau de fabrication, nous avions commencé à sortir nos fabrications sur les sociétés extérieures et j'ai rencontré le PDG d'une société auvergnate qui avait comme projet d'ouvrir dans le sud de la France une succursale, et notamment à Solliès-Pont, ça s'appelait Azur Aéronautique. Donc j'avais eu une proposition pour être salarié chez cette société. J'ai réfléchi, j'avais la possibilité de partir par le biais de congés sans salaire, ce que j'ai fait. Donc, alors ce n'est pas une décision que l'on prend immédiatement, hein, on a une famille, une femme, des enfants. Mais j'ai pris la décision en sachant que je ne courais pas un grand risque dans la mesure où je pouvais réintégrer mon poste initial.
Exact. Alors, j'ai dû un peu me mélanger parce qu'à un moment, vous m'aviez parlé de la société Cémité.
Alors, Azur Aéronautique, ça a été un temps.
Et voilà.
Ça a duré 7 ans.
Oui, quand même.
Et puis après, il y a eu une société qui s'appelait Cémité, sur laquelle j'étais associé avec une société marseillaise qui s'appelait Cémi.
D'accord.
Et là, ça a duré 5 ans.
5 ans. Donc, vous continuez bon an, mal an. Et c'est là que je pense que vous créez votre société Aéro 13, par la suite, à la Ciotat.
Alors, j'étais associé avec une société marseillaise. C'était le père, ses enfants. J'étais, moi, décentralisé à Souliers-Pont. Ils étaient sur Marseille. J'avais une certaine connaissance de la clientèle qui me disait, qui me suggérait, pourquoi pas créer votre entreprise. Et le hasard a voulu qu'un ami d'enfance qui travaillait dans tout ce qui était comptabilité, qui passait prendre le café quand il allait sur la succursale de Nice pour laquelle il travaillait, qui me disait que finalement, il en avait peut-être envie de faire autre chose que de travailler pour cette société à facturage. Et moi, je lui disais, pourquoi pas faire quelque chose que nous pourrions créer tous les deux. Donc, le projet a mûri et nous avons décidé de créer Aéro 13 en 2001 à La Ciotat.
À La Ciotat, parfaitement. Et c'est là que vous m'avez dit... Vous avez débuté avec 6 salariés.
Oui, complètement, 6 salariés, oui, oui.
6 salariés avec votre associé.
Voilà, mon associé, moi-même, et 6 salariés, oui, complètement.
Alors, comme je suis un garçon curieux, que je demande toujours un peu des anecdotes sur le personnage que j'ai en face de moi, vous m'avez parlé d'une anecdote sur vos bureaux à La Ciotat.
Alors, nous avions trouvé des locaux. Alors, à La Ciotat, pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où on avait trouvé des locaux qui étaient plus ou moins adaptables à ce que nous voulions faire. Alors, il y avait une partie bureau qui était au premier étage, une partie atelier qui était sur un plein pied, et la partie magasinage qui était au sous-sol. Effectivement, c'était pas très facile de travailler dans ces conditions-là. La société était jeune. En termes de bureaux, bien sûr, on a souvent utilisé les cartons qui nous permettaient de livrer notre matériel en termes de bureaux dans l'atelier.
On se débrouille comme on peut au début. Hein. Voilà. Donc ça, c'était l'anecdote. Et j'en ai une seconde aussi que vous avez bien voulu me dévoiler. La remarque d'un industriel toulousain à un moment.
Oui, ça c'est moins sympathique.
C'est moins sympathique, mais...
Nous avions reçu, par le biais de la société Labinal, qui fait partie du groupe Safran, une personne relativement importante qui était venue visiter nos locaux à La Ciotat. Puis quelques mois après, il me reçoit à Toulouse, dans son bureau, et il me dit, bon, sans vouloir vous faire offense, à La Ciotat, j'ai visité un garage. Je reconnais que ça ne m'a pas fait plaisir plus que ça, mais dans ma tête, je m'étais pensé, est-ce que vous en avez créé un jour de garage, vous ?
Voilà, ça, c'était, vous n'avez pas apporté cette réponse, mais vous l'avez pensé, c'est ça qui était bien.
Oui, je ne me suis pas permis.
Non, bien sûr, au début, voilà. Et suite à ces débuts-là, soudain, c'est l'explosion. C'est là que vous allez sur Signe ?
Alors,
exact.
Non, d'abord, nous restons
quelques années
à La Ciotat. Bon, le chiffre d'affaires augmentait de 20% par an. Bien sûr, le personnel s'étoffait, les clients aussi. On était très bien soutenus par Eurocopter à l'époque. Et puis bon, nous étions avec un bail et on se disait pourquoi pas créer quelque chose qui nous appartienne. Et nous avons fait l'acquisition d'un terrain dans la zone industrielle de Signes sur lequel nous avons construit une usine de 3800 m² en 2007.
2007, la première usine, on va dire.
Qui nous appartenait.
Qui vous appartenait. C'était vraiment un bel investissement parce que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails financiers, mais je suppose qu'il a fallu l'aide des banques, vous n'étiez pas...
Cette usine a appartenu pendant 12 ans à nos partenaires financiers.
Voilà. Écoutez, maintenant, elle a été à vous, c'est ça. Et je sais que donc par la suite, vous êtes expatrié, vous avez monté aussi une usine à Clermont-Ferrand.
Alors, par le biais d'une réponse sur des marchés publics, nous avions été retenus sur un marché pour l'AIA de Clermont-Ferrand. Et les conditions de ce marché ne permettaient pas de fabriquer les pièces sur le site de Signes. En termes de délai, nous n'avions pas le temps de faire les livraisons. Donc nous avons créé un site à Clermont-Ferrand, à Aéro 13 Auvergne, dans la zone du Brézé, en 2009.
Voilà, il a le souvenir des dates. C'est très bien ça, il n'a pas oublié. De Clermont. Alors, on va un peu préciser pour les gens qui nous écoutent, parce que... Alors, moi, c'est vrai que quand je vous ai vu, vous m'avez parlé de chaudronnier. Je dis chaudronnier, mais c'est des trucs à l'ancienne, là, avec cette lave-là qui coule et tout. Et je me suis... Et non, et Philippe m'a dit, mais non, c'est pas du tout ça. C'est le terme, c'est chaudronnier, mais vous travaillez beaucoup dans l'aéronautique pour les...
Alors, préciser. La chaudronnerie, telle qu'elle est présentée, c'est la fabrication de pièces par le moyen de pliage, d'emboutissage, de rivetage, de soudure, des assemblages. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut prendre comme image où on voit des hauts fourneaux avec les métaux en fusion qui sont coulés ou quoi que ce soit. La chaudronnerie, non, c'est la mise en application des métaux.
Parfait. Alors, nous avons un beau parcours là, professionnel pour l'instant. Donc, il y a eu Signes, le début, Clermont-Ferrand. Et j'ai su que vous aviez également monté une usine à Casablanca, au Maroc.
Alors, un petit peu plus tard, là, ça, c'était une demande de la part de nos donneurs d'ordre qui souhaitaient avoir ce qu'on appelait du low cost, du bas coût. Donc, bien sûr, au Maroc, le taux horaire d'un ouvrier est relativement beaucoup plus bas que celui d'un ouvrier en France. Donc, nous avons décidé de créer une entité à Casablanca.
Avec du personnel local?
Uniquement du personnel marocain, oui. Local, que nous avons formé.
Cette entreprise, cette société, vous l'avez conservée pendant longtemps hein, ou...
Oui, nous avons conservé toutes nos sociétés jusqu'à ce que nous prenions notre retraite.
Et c'est bien ça, c'est parfait. Alors, je dis toujours, le travail c'est la santé, certes, mais il faut décompresser, avoir une bouteille d'oxygène, une soupape de sécurité. Et c'est là que vous vous réfugiez, je vais dire, dans le sportif. Vous étiez déjà sportif avant, mais là, un peu plus. Je dirais, votre premier sport, est-ce que ça a été le hand?
Oui, voilà. J'ai joué au handball à Cuers, parce que bon, à Cuers, à l'époque, il n'y avait pas de stade de football, il n'y avait pas de gymnase non plus. On pratiquait le handball dans la cour du CES sur un terrain en goudron.
Le CES, l'affairage.
CES, l'affairage. Voilà. Il y avait une personne qui, je pense, a été à l'initiative de l'engouement du handball à Cuers, c'est M. Lucien Vianelli qui nous a quittés récemment. Et bon, bien sûr, tous les jeunes à Cuers jouaient au handball. Après, le club de football a commencé à se créer. Le stade s'est fait, mais bon, moi j'ai entamé à partir de Benjamin une carrière de handballeur jusqu'à senior.
Jusqu'à senior. Et vous m'en rappelez la division dans laquelle vous jouiez
On jouait à l'époque, ça s'appelait l'excellence régionale, ce qui correspondrait aujourd'hui à une préfédérale. Ou peut-être même une nationale 3.
Voilà. Bon petit niveau, on peut dire. N'ayons pas peur.
Régional.
Ouais, régional, allez, c'est très bien. Donc ça, c'était Cuers. Est-ce que c'est à ce moment-là, donc uniquement vous étiez dans le handball, je précise, on a toujours, moi des fois aussi je me trompe, j'ai toujours tendance à dire handball, alors qu'on me reprend, et que c'est un terme allemand.
Autrichien, exactement.
Autrichien, très bien Philippe, de cette précision. Donc handball, attention. Tout à coup... Est-ce qu'il y a eu ce déclic pour la course automobile en même temps, là? Alors, ou juste après?
Non, ce déclic, je l'ai depuis tout gamin.
C'était en vous.
J'allais voir, alors à l'époque, il y avait une course automobile qui s'appelait la Ronde des Morts.
Tout à fait.
Et j'avais une dizaine d'années, et puis bon, j'avais une habitation familiale, un moulin familial qui était à proximité, d'où passait cette épreuve, et tout gamin, j'y allais, j'étais passionné par la voiture. Donc j'ai vu éclore, moi, sur cette épreuve-là, des pilotes renommés, comme Bernard Darniche, par exemple, qui est devenu plus tard un pilote professionnel. Et je m'étais toujours dit, j'allais voir le rallye du Var, je me dis, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir faire un rallye, j'essaierai de le faire.
Et vous avez fait je vais employer un terme, ce coming out? En quelle année?
Non, mon premier rallye, je l'ai fait en...
J'ai noté la date, on va voir si je me suis trompé.
81 ou 82, de mémoire. C'était le rallye du Var. Et puis bon, je courais avec des pilotes régionaux, qui étaient des bons pilotes. Et puis bon, j'ai eu l'opportunité un jour de monter avec un pilote qui était un peu plus reconnu au niveau national. Et puis En faisant, j'ai rencontré d'autres pilotes quand je faisais partie du championnat de France. Et puis, j'ai à ce jour couru à peu près avec 20 pilotes différents. Jusqu'à faire du championnat du monde. Voilà, quelques épreuves.
On va y venir. Donc, je disais, pouvez-vous, mon cher Philippe, nous détailler la chronologie de votre parcours ? Vous avez commencé, vous m'avez dit, en tant que copilote. Je ne sais pas si c'est copilote ou pilote au début, mais alors, je crois que c'était plutôt copilote, non ?
Mon premier rallye, je l'ai fait au volant. Nous avions avec un copain de Cuers, qui s'appelle Patrick Béguin. On avait acheté une Simca 1000 Rallye 2 et nous avions fait le rallye du Var, tous les deux, en se passant le volant. Après, pour continuer à courir, moi, j'étais encore couvrier de l'Arsenal. Je n'avais pas les moyens financiers de financer des épreuves de rallye. Donc, j'ai atterri dans le baquet de droite d'un pilote cuersois qui s'appelle Michel Fabre, où j'ai fait pour mon premier rallye en tant que coéquipier, le rallye des 1000 pistes, à Cangevers.
Est-ce que déjà il y a eu un petit palmarès ou non, c'était juste vous étiez observateur
complètement amateur. Le plaisir de participer à un rallye, le plaisir de voir l'arrivée, parce que c'est toujours un grand bonheur de voir l'arrivée d'une épreuve, quel que soit le classement que l'on peut avoir. Et puis après, de fil en aiguille, rencontrer d'autres pilotes, des propositions, partir faire d'autres épreuves, quelques résultats qui commencent à arriver. Et puis voilà, quelques années à pratiquer ce sport en championnat de France.
Alors, on va essayer d'être court là, parce que bientôt, mon président René, il tient beaucoup là. Il faut qu'il y ait la pause musicale, évidemment, bien sûr. Donc, il nous reste quelques secondes là. Je vais couper et je vais repartir sur des anecdotes sur votre rallye. On va faire une petite coupure, une petite pause musicale là, de 2 minutes là, et nous reprendrons après avec mon invité.
Je sais d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai fait.
Cette année encore, l'Office du tourisme de la Vallée du Gapot organise un concours photo sur le thème « Les couleurs du Sud dans la vallée ». Ouvert à tous, amateurs et professionnels, ce concours invite chacun à capturer la lumière, les paysages, l'architecture locale et l'art de vivre provençal qui font la richesse des lieux. 50 photos seront sélectionnées et exposées tout l'été dans la salle d'exposition de l'Office ainsi que dans une exposition hors les murs dans les communes du territoire. 4 prix seront attribués. De plus, des balades photos gratuites sont programmées entre avril et mai afin de permettre aux participants de bénéficier des conseils personnalisés d'un photographe expérimenté et de perfectionner leur technique. Inscription au 04 94 28 92 35. À vos objectifs et bonne chance.
Cet été, ne manquez pas l'événement incontournable dans la vallée du Gapot. Le festival du château de Solliès-Pont revient dans le cadre exceptionnel du parc du château avec 4 soirées, 4 grandes stars de la chanson française. Mercredi 15 juillet, Christophe Maé ouvre le festival. Jeudi 16 juillet, retrouvez Calogero. Vendredi 17 juillet, la révélation Elena. Et en clôture, samedi 18 juillet, Kenji Girac. Un festival à vivre en plein air, au cœur de l'été. Billetterie disponible à l'office de tourisme de la vallée du Gapot. Le festival du château de Solliès-Pont, un événement Sud-Concert.
Maman, j'ai plus de t-shirt propre pour demain.
Oh mince, j'ai oublié de lancer une machine.
Bah oui, le soir, il n'y a plus de soleil.
T'inquiète, Tom. Avec papa, en plus des panneaux solaires, on a installé une batterie.
Une batterie ?
Oui, comme ça, le soleil de la journée nous sert aussi le soir.
Trop bien ! Je vais pouvoir jouer à la console comme chez Jerry.
Mouais. Solaren installe des solutions photovoltaïques adaptées à votre quotidien. Solaren, le solaire naturellement. Prenez rendez-vous avec un expert sur solaren.fr.
Gapot FM
à Solliès-Ville
100.9.
Alors, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, là, donc je reprends, je suis avec Philippe Gueulerin, un ami d'enfance. Là, vous êtes bien sur Gapot FM 100.9 dans l'émission Sans filtre by ALM. Donc, mon cher Philippe, nous nous retrouvons. Nous nous étions arrêtés sur votre parcours sportif, là, en tant que copilote essentiellement. Et un peu comme Henri Lacroix, un peu moins, mais vous avez gagné pas mal de titres comme un jour sans pain, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous les citer ? Enfin, si vous en souvenez de tous.
Alors, je suis beaucoup plus modeste qu'Henri Lacroix, qui, je crois, était 19 fois champion.
22 fois.
22 fois champion du monde. Il me reprendra s'il me voit. Non, moi, j'ai été deux fois champion de France des rallyes sur terre. C'est un championnat que j'ai beaucoup pratiqué parce qu'il me permettait, tout en travaillant, de pouvoir pratiquer ce sport. Parce que les rallyes sur terre, on a très peu de reconnaissance. Elles se font le jour de la course, par deux passages dans chaque spécial. On prend les notes et puis on attaque la course. Donc j'ai fait ce championnat pendant pas mal d'années. J'ai fait les rallyes, certains, je les ai fait peut-être 10 fois chacun. Et j'ai eu la chance un jour de monter à côté d'un très très bon pilote, peut-être le meilleur sur la terre dans ces années-là, qui m'ont permis en 1996 de gagner le championnat de France avec une Lancia intégrale et en 1997 avec une Ford Escort Cosworth. Voilà.
Alors, je vais continuer derrière vous. Donc vous avez été champion de France en 1996. Hein, vous venez de le dire, mais seulement avec 8 courses, parce qu'il y a un détail, un souci financier derrière tout ça.
En 1996, on a fait 8 courses, par contre en 1997, nous avions le budget que pour 5 courses, et on les a gagnées toutes les 5, ce qui nous a permis d'être champion de France à nouveau. Voilà, parce que bon, ce sport, malheureusement, il est conditionné à l'argent, avec les sponsors. Voilà, comme nous courions avec de très belles voitures, c'était une course relativement chère. On a eu cette chance-là. Après, on a continué à courir, mais de façon plus épisodique et avec d'autres pilotes, en ce qui me concerne.
Alors, donc, sur ces titres gagnés, évidemment, il y avait les déplacements. Et vous m'avez dit, alors, on peut, parce que vous êtes un garçon gentil. Je vais vous la poser la question. Comme je vous ai dit, je titille un peu mes invités. Je sais que vous aviez droit à des frais de déplacement, mais que dans l'ensemble, vous ne les preniez pas. Enfin, vous aviez droit à des remboursements, mais vous ne faisiez pas...
Alors, à part quand nous étions champions de France, que nous courions avec une structure italienne qui s'appelait Nocentini, nous étions pratiquement défrayés pour nos déplacements et nos hébergements. En ce qui me concerne après, quand j'ai participé avec différents pilotes ou quoi que ce soit, je me suis toujours assumé financièrement, que ce soit pour mes déplacements ou pour mes hébergements, pour avoir une certaine liberté, pour ne pas être tenu par le pilote si j'avais envie d'arrêter de courir.
Voilà, c'est ce que vous m'avez dit, une certaine autonomie, voire une indépendance même, je dirais. On rejoint. Je vais faire un parallèle avec la Corse, parce que je vais vous parler de la Corse. C'est toujours pareil, c'est une petite anecdote, parce que malheureusement, dans ce genre d'épreuves, de discipline, il y a des accidents, comme dans toutes les disciplines. Mais vous, c'était beaucoup plus spectaculaire. Donc vous avez eu des sorties de route, je vous laisse développer et je reviendrai sur l'anecdote.
Alors des sorties de route, quelqu'un qui fait du rallye, s'il a participé à beaucoup d'épreuves, s'il n'est jamais sorti, c'est relativement rare. Mais j'en ai deux particulières qui m'ont marqué, une année au rallye du Var, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, à l'arrivée de la spéciale de Capelude, c'est-à-dire on part de Colobrière en vache à Cogolin. On avait fait une sortie de route sur une flaque d'huile avec Serge Raymond, avec une 309 GTI, où on avait pulvérisé la voiture. Et puis j'en ai une autre sur les bords du lac de Figari, à côté de Porto-Vecchio, où là, pareil, on était la dernière spéciale du rallye, nous étions second, on s'est mal réceptionné sur une bosse, et on a détruit la voiture dans les rochers. Bon, ce sont les deux qui m'ont particulièrement marqué. Après, des petites sorties ou quoi que ce soit, quand on fait du rallye, oui. Il suffisait de regarder à la télévision ce week-end, il y avait le rallye des Canaries, un championnat du monde. Ben, il y en a toujours qui vont un petit peu à côté.
Exactement. Alors moi, je reviens toujours sur mon anecdote, sur cette anecdote que vous avez bien voulu me raconter. C'est une fois, je crois que vous êtes en Corse, vous faites un rallye et vous sortez. C'est bien en Corse, vous sortez de la route. Et il y a une personne qui vient vous aider à vous extirper de votre voiture.
C'est pas en Corse. Excusez-moi. C'est au rallye du Var.
Ah, rallye du Var.
La jeune fille qui m'a aidé à m'extraire de la voiture à l'arrivée de Capelude, c'était la championne de France de tennis, Isabelle de Mongeau.
Voilà. Quelle aide vous avez eue quand même. Vous voyez,
je me suis bien passé ce jour-là.
Oui. Alors, j'ai fait un petit mélange, parce qu'évidemment, c'est un peu dur de tout rafistoler en même temps. Non, sur la Corse, on va un peu dévoiler quelque chose. Vous m'avez dit que la première année, quand vous faites le rallye de Corse, vous aviez été champion, parce que vous avez reconnu le parcours, et que les Corses, eux, la deuxième année, ils ont été plus malins, ils ont fait un peu de malice, on va dire, sur ces Corses. Alors, expliquez-nous, Philippe.
Ma première victoire en championnat de France, Je l'ai faite en Corse, c'était en 1996, quand nous avons été champions de France. C'était le premier rallye que j'effectuais avec ce pilote qui m'a permis de gagner tant de courses. Donc cette année-là, nous avions gagné. Et l'année suivante, quand on s'est représenté sur le rallye, nous avons fini second. Mais nos reconnaissances avaient été relativement limitées par rapport à nos adversaires corses, qui, ça faisait déjà plus d'un mois qu'ils tournaient dans les spéciales. Mais c'était des copains et bon, c'était très sympa aussi.
Voilà, ça s'est bien passé, on va dire. Il n'y avait pas une animosité comme...
Ça reste du sport.
Ça reste du sport, exactement. Là-dessus, donc... Moi, je dirais que vous êtes un véritable VRP du sport. Parce que vous êtes également un grand adepte de la pétanque, mais surtout du jeu provençal, qu'on appelle communément chez nous la longue.
Alors, pas la pétanque du tout, je ne suis pas assez fort.
Assurément, vous avez fait quelques concours de pétanque.
Quand j'étais plus jeune, à la fête du village.
C'est
bien. Non, j'adore jouer au jeu provençal. Bon, je suis un joueur très, très moyen, mais c'est un jeu qui me plaît. Je le pratique avec des gens avec qui sont des amis et avec qui ça me fait plaisir de jouer. Et j'essaie de le pratiquer régulièrement depuis que je suis à la retraite.
Vous pratiquez toujours? Oui, je vous vois régulièrement sur les terrains, que ce soit à l'accro, à Pierrefeu. Voilà, vous êtes toujours dans le milieu, on va dire.
Il faut venir de bonne heure pour me voir quand même.
Oh, des fois, ça traîne un peu.
Oui, quelquefois.
Vous avez eu des titres, rappelez-moi, vous avez eu des titres quand même. Soyez pas modeste, Philippe.
Alors, c'est pas un titre, j'ai eu la chance de faire la finale du National de Pierrefeu. Voilà, le concours national, c'est un concours relativement relevé. J'ai fait une fois la finale, une fois la demi-finale. Après, j'ai gagné quelques petits concours locaux. Mais bon, non, je n'ai pas le palmarès. Si vous comparez Henri Lacroix, les boules sont carrées. Moi.
Non, je ne vous compare pas, mais quand même, moi, j'aime bien ces personnes qui sont dans un milieu sportif. Vous êtes dans la course automobile, vous basculez sur la pétanque, le jeu provençal, vous êtes quand même à l'aise. Henri Lacroix, bon, c'est un ami aussi, mais je ne pense pas que dans une voiture, il soit à l'aise.
Non, parce qu'il n'a jamais essayé. Peut-être qu'il avait des talents qui ne sont pas exploités.
Exactement. Bon, on lui dira, on le verra. Alors, je vais revenir un instant, Philippe, sur le rallye automobile. Notamment, vous m'avez parlé en 2002, où c'est une de vos dernières courses. Est-ce exact? En Belgique.
En 2022.
Voilà. Alors, on vous contacte comment?
Alors, c'est un ami qui était coéquipier comme moi et qui a pris sa retraite. Il a vendu son entreprise. C'est un coéquipier qui a navigué des grands pilotes. Et puis, il s'est dit, pourquoi pas acheter une voiture? Et donc, il m'a sollicité. Il m'a dit, il me faut quelqu'un qui ait un petit peu d'expérience. Et nous avons fait un essai ensemble avec une voiture historique. Et nous avons été courir d'abord en Roumanie, où on a abandonné parce qu'on a cassé le moteur très rapidement. Et la dernière épreuve que j'ai faite avec lui en 2022, c'était les Boucles de Bastogne, qui est un rallye historique en Belgique. Voilà, c'est la dernière course à laquelle j'ai participé, où nous avons fait un résultat très honorable.
Je vais le dire, le résultat, parce que vous me l'avez dit. Vous avez fini 11e,
ouais.
Ce qui est honorable.
Oui, c'était... Compte tenu de l'épreuve, c'était vraiment... On était très, très contents, compte tenu du plateau qu'il y avait. Ça s'est très, très bien passé. Il faisait très froid. Mais bon, c'était un grand plaisir et... Voilà, ça reste un très bon souvenir.
Après, donc, ça, c'était en 2022, parce que vous aviez arrêté bien longtemps avant, quand même.
Ça faisait 4-5 ans, oui, que je ne roulais plus, oui.
Voilà. Est-ce que, alors, dans ces 4-5 ans, est-ce que, par exemple, comme un footballeur ou tout autre sportif, est-ce qu'on perd un peu des réflexes où il faut... c'est peut-être pour ça que vous avez fini 11e, parce que vous n'aviez plus les réflexes, non?
Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que quand on arrête de pratiquer un sport, quel qu'il soit, on perd certains automatismes. Mais bon, compte tenu de la longévité que j'avais dans ce sport, je les ai vite retrouvés quand même.
Quand on est bon, voilà. Quand on a... Voilà. Pas besoin de... On est bon, on reste bon, voilà. Ça se retrouve de suite. Alors, vous m'avez parlé surtout, vous c'est surtout l'asphalte, le bitume. L'autre fois, quand on s'est vu...
La terre, pardon.
Je vous avais demandé le Paris-Dakar.
Donc, c'est quelque chose qui ne m'a... Qui, d'abord, je ne me sens pas du tout compétent en termes de navigation. Et puis, non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Quand je suis à la télévision, je vois les galères qu'ils ont... Non, ça ne m'attire pas, même si je pense qu'en termes de paysage ou en termes d'épreuve, ça doit être quelque chose de formidable. Mais non, je ne me sens pas du tout,
attiré par ce genre d'épreuve.
Non, prêt surtout en termes de compétences à faire cette épreuve.
C'est Parce que ce ne sont pas les mêmes notes, c'est ça, c'est pas les mêmes notes
c'est,
que
c'est
sur un...
C'est de la navigation proprement dit, alors qu'en rallye, donc, on annonce des notes virage par virage. Sur un rallye comme le Paris-Dakar, c'est de la navigation pure, avec des caps à tenir ou quoi que ce soit. Et malgré tout, les gens, avec le professionnalisme qu'ils ont, ils arrivent à se perdre. Parce que c'est quand même relativement vaste, le désert.
Exact. Et alors, le premier Paris-Dakar, c'était avec des chanteurs, je me souviens, ici et là. Donc, comment eux, ils ont pu... Alors, c'est la notoriété, vous me direz, certes, mais ils ont quand même fait... c'est un honneur pour eux, quand même, d'avoir participé. Ou est-ce que c'était un peu tronqué, il y avait un peu des...
À la base, le Paris-Dakar, c'était une aventure.
Oui.
Maintenant, c'est devenu très professionnel, avec des constructeurs qui engagent des moyens financiers relativement importants. Ça n'a plus rien à voir. Une année, le Paris-Dakar, il a été gagné, de mémoire, par les frères Marot avec une Renault 20. Voilà. Il y a des chanteurs, effectivement, on a vu Johnny Hallyday participer, ouais. On a vu Claude Brasseur, on a vu, bon, qui était avec des pilotes de renommée. Mais je dirais que l'aventure était primordiale à l'époque. Maintenant, c'est très professionnel. On voit Toyota, on voit Dacia, on voit des constructeurs qui mettent des gros moyens pour pouvoir gagner. Non, ça n'a plus rien à voir.
Alors, j'aborde... très bien. Alors, j'aborde toujours un peu cet aspect aussi. Vous n'avez pas couru avec du personnel féminin? Ou non, vous avez jamais été tenté d'avoir une pilote, enfin une pilote, on dit une pilote féminine.
Non,
vous avez eu la demande ou pas du tout?
Pas du tout.
C'était pas une question de confiance.
Généralement, une pilote féminine court avec une navigatrice féminine.
Ah, il n'y a pas de mixité, on va
très
dire.
Très rarement.
Mais
Non, j'ai pas été sollicité par une pilote féminine. Non.
À l'époque, il y en avait, je me rappelle. Est-ce que c'était l'époque de Michel Mouton? Non, c'est beaucoup plus ancien.
Michel Mouton, c'était un petit peu avant que je cours. Oui, Michel Mouton avait une navigatrice féminine, c'était Fabricia Pons.
D'accord.
C'était une excellente pilote, Michel Mouton.
Ouais. Et est-ce que vous, quand vous avez fait ces fameux rallyes, tout ça, est-ce qu'il y avait des féminines qui
oui,
couraient?
Oui.
Elles vous titillaient un peu? Elles étaient un peu dans les classements ou elles étaient très loin?
À l'époque, il y avait le trophée Citroën avec Lévis Amilles Piste Groupe B. Il y avait une fille qui était championne de France, Carole Vergniaud, qui était une pilote féminine, avec une navigatrice féminine, et que j'ai connue aussi un petit peu. Et une autre, après, Christine Driano, qui est une fille qui jouait dans les 5-6 premières places à chaque fois. Ouais.
Ah ben c'est parfait, ça. Donc, ça donnait un peu du piment. C'était bien d'avoir de la féminité un peu dans ce monde, je ne vais pas dire de brut, mais bon.
Non, c'est pas un monde,
pas
de,
monde
brut,
de brut, c'est entre guillemets, bien sûr, Philippe.
Le rallye, c'est pas un monde de brut. Le rallye, c'était très, très convivial il y a quelques années. Ça s'est professionnalisé. Je dirais que c'est beaucoup moins sympathique que ce que j'ai pu connaître à l'époque.
Alors, nous allons faire la deuxième pause musicale et nous reprendrons après avec mon invité, Philippe Gueuleret.
Gapo FM, la radio soleil.
Comme toi, je suis rempli de doutes. Comme toi, j'ai peur de l'amour, mais je glisse sur la vie, même si t'as changé de route. On s'est toujours tout dit, deux frères, la famille. Pourquoi tu parles plus à personne? Dis-moi ce que t'as sur le cœur, tes peurs, tes ennuis. Quand les émotions se bastonnent, y aura toujours ma main, nos pleurs et nos rires. De ta présence, pas celle où je te vois, mais celle où je te sens. Sais-tu qu'on a de la chance? Peu importe les faux pas, je t'aime et je te défends. On voit tes absences, on sent tes silences et ton vague à l'âme. J'entends quand tu penses, en état d'urgence, je serai toujours là. Allô, pourquoi tu ne
Allô, t'es beau, non, ne t'oublie pas. chercher les étoiles. C'est ta vie, c'est ta voix. Même si je comprends pas tout, moi je serai toujours là pour partager tes combats. Allô, pourquoi tu ne réponds pas? Je te laisserai pas tomber de haut, te faire du mal à la joie.
Français sur 3 dort mal. Et si on changeait ça? Pour la journée du sommeil, profitez d'une offre exceptionnelle chez Litry numéro 1. Découvrez le numéro 1, notre matelas ressort en sachet EPEDA, au soutien ferme et au confort absolu.
Et pour fêter la journée du sommeil, seulement 399€ en 140 par 190. Oui, 399€ pour un matelas de fabrication française.
Le savoir-faire EPEDA, l'expertise Litry numéro 1 et du stock disponible immédiatement.
Litry numéro 1 à Toulon-la-Garde, du stock, du choix, des prix.
60 ans.
Papa, 60 ans, c'est vieux?
Un petit peu.
Alors Hockey Chorale, c'est vieux?
Pas du tout. À 60 ans, ils ont encore des attractions, des spectacles de cow-boys et d'indiens, Zorro et plein de surprises.
Ah oui, alors ils sont en forme.
Et prêts à t'étonner.
Hockey Chorale fête ses 60 ans. Venez redécouvrir la légende. Ouvert tous les week-ends et ponts de mai à Cuges-les-Pins.
Vous avez demandé les plus grands tubes des années 60 et 70? Alors ne quittez pas, Gapo FM vous met en communication avec eux chaque dimanche entre 10h et midi. Gold, une émission cuisinée par Mika à déguster en famille. À dimanche 10h.
Gapo FM
à Belgencier
100.9.
Alors nous reprenons avec mon invité, donc Philippe Gallerin, sur la radio Gapo FM 100.9, dans l'émission Sans filtre by ALM. Et c'est vrai que pendant la pub, Philippe m'a sollicité en disant, voilà, on va développer un peu l'aspect professionnel de ces entreprises qu'il a laissées, mais c'était son bébé, on va dire, en quelque sorte. Et je pense qu'il a toujours un œil, vous avez toujours un œil sur vos entreprises. Plus ou moins.
J'ai des contacts avec les personnes qui sont aux manettes aujourd'hui, mais j'ai carrément coupé sur l'aspect aéronautique. Aujourd'hui, je me suis mis auto-entrepreneur avec une connaissance que j'ai faite dans l'aéroport de Casablanca et qui m'a mené sur un sujet complètement différent qui est les télécoms. Donc nous avons fabriqué des camions par le biais d'une société italienne pour faire de l'apport de réseau dans les grandes manifestations en France. Et bon, je assiste un petit peu, je fais consultant, et puis bon, c'est très sympa. Ça me permet de garder une activité intellectuelle sans toutefois non plus avoir les soucis de la gestion de l'entreprise et les contraintes, bien sûr.
Donc vous avez monté cette entreprise, mais seul là, non, il y a des...
Oui, je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. Oui, je suis auto-entrepreneur. Ouais. Je suis donc j'ai mis des factures à une personne qui paye les moments où je passe avec lui pour l'aider, pour l'assister ou quoi que ce soit. Mais non, c'est une entreprise. L'auto-entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement simple. C'est pour être, je dirais, un petit peu en règle avec la loi.
D'accord. Et vous êtes appelé régulièrement, donc sur des grands événements, vous m'avez dit...
Alors, nous, les événements, nous ne les faisons pas. Nous, on a fourni le matériel qui leur permette de les couvrir. Voilà, donc on a fait des formations, on fait des entretiens du matériel. Voilà, demain, par exemple, je serai à Miramas, on va faire des formations pour des gens des phages, pour leur montrer comment fonctionne un camion, pour élever le mât, mettre les antennes en position. C'est une journée de formation que nous allons faire, voilà.
Alors quand vous dites « on », c'est qui « on » ?
Mais un copain et moi, un ami et moi. C'est donc lui, par contre, c'est un chef d'entreprise. C'est lui qui m'a mené sur ces affaires-là dans les télécoms. C'est son job, c'est son métier. C'est un professionnel de ce métier-là. Alors que moi, je ne le suis pas du tout.
Et alors, je dirais toujours pareil, je me répète, vous avez eu ce déclic comment
Non, c'est lui quand il m'a... Alors, nous sommes rencontrés dans l'aéroport de Casablanca le vendredi quand on récupère nos avions pour rentrer ou dans l'aéroport ou dans l'avion.
Alors, Philippe, je précise, vos avions, c'est pas un avion personnel, rassure-moi, comme Bernard Tapie ou...
Non,
c'est un avion public, hein, on va dire, bon, que nos auditeurs
notamment de
bien.
La Royal Air Maroc, qui est une compagnie marocaine. Et puis, quand on a sympathisé, puis le jour où j'ai pris ma retraite, il m'a dit, tu vas pas rester comme ça... à tailler tes rosiers dans son jardin ou quoi que ce soit. Donc, même si j'ai du travail dans mon jardin, compte tenu. Mais donc, voilà, il m'a amené là-dessus, ça m'a intéressé. Puis, ça fait maintenant 6 ans que je fais des vacations avec lui, ouais.
Ça fait six ans
que j'ai arrêté de travailler, ouais.
Alors, est-ce que vous travaillez essentiellement en France ou vous avez quand même l'international ?
Non, alors on a les camions, nous les avons vendus en partie en France. On est en train d'en vendre au Maroc. On a créé des pick-up, des remorques que nous sommes en train de vendre au Maroc. Non, c'est essentiellement en France, oui. Mais les opérateurs, ce sont Bouygues Télécom, SFR et Free.
Vous vous rapprochez vraiment du titre d'ingénieur, là, parce que ça commence...
Non, pas du tout.
Bon, moi, je pousse toujours un peu, mais bon, un peu plus qu'ouvrier spécialisé, là. Technicien, je vais dire.
Là, je suis assistant...
Ah.
Je suis assistant.
Mais vous montez, vous continuez de monter dans l'échelle
non,
de...
Je reste, ça reste une activité qui nous permette de rester pas en dehors du milieu professionnel. Mais
d'être toujours actif.
Maintenant, je m'approche quand même vraiment de l'arrêt de tout ça.
Ah. Oh, c'est ce que vous dites depuis longtemps, mais comme certains, je vais m'arrêter. Et puis ils sont toujours là. Et c'est ce qui les maintient aussi un peu, parce que
oui. C'est
terrible de... Oh, une fois, j'avais une phrase quand je travaillais, et il me disait « Alain, et la retraite ?» Je disais « La retraite, c'est l'antichambre de la mort, alors je ne veux pas y être. Bon, » c'était de l'humour, bien sûr. Chacun son tour, la retraite. Alors, Philippe, nous abordons la dernière partie de l'émission. Là, donc, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de votre famille avec une épouse formidable, Lucie, dont je suis à l'origine de votre rencontre. Je le dis. Et un fils qui a débuté avec vous, est-ce exact, qui a débuté dans l'entreprise, vous m'en avez un petit peu parlé.
Alors mon
fils qui s'appelle
Julien.
Julien.
Mon fils a fait des études supérieures et donc il est diplômé de journalisme. Mais je le voyais souvent à la maison sans travail. Donc j'ai eu un petit peu une pression familiale pour que je le recrute dans une de mes entreprises. C'est ce que j'ai fait. Et donc, mais il est venu au magasin faire du magasinage, c'est-à-dire bouger des tôles dans un premier temps, où je ne pense pas que ça le satisfasse beaucoup. Et puis, il a intégré le bureau des méthodes, où il avait le contact avec la clientèle, ça se passait relativement bien. Mais n'étant pas son métier, n'étant pas sa spécialisation, un jour, il m'a dit « Écoute, papa, c'est bien gentil tout ça, j'ai envie de faire quelque chose avec un ami ». Donc, ils ont créé une société qui s'appelle Iconique, qui fait de la réalité virtuelle, qui font des jeux vidéo. Voilà, ils étaient basés à La Ciotat encore sous peu, mais là, ils sont sur Aix-en-Provence. Nous avons participé avec mon associé à la création de cette entreprise financièrement. Voilà, bon, c'est très bien, ça se passe bien. J'ai un fils formidable, il a 43 ans. J'ai un petit-fils qui va avoir 13 ans. Et tout se passe très bien.
Vous avez encore votre mère, que vous me parlez souvent, Philippe.
J'ai encore ma maman qui s'approche de ses 96 ans.
C'est
voilà,
beau.
Ça devient de plus en plus compliqué, malheureusement, mais c'est la vie.
Bien sûr.
J'ai encore la chance de l'avoir.
Bien sûr, et pas tout le monde ne peut en dire autant. Alors, votre fils, Julien, là, j'ai dit c'est bien, parce que c'est un peu comme le ministre Bérégovoy. Il a commencé en bas de l'échelle. Et maintenant, il vole de ses propres ailes, donc avec sa société. Et je rejoins un peu, je fais toujours un parallèle. Là, j'ai dit, à un moment, j'avais marqué dans mes notes, j'ai dit, vous êtes un mécène. Est-ce que vous aidez les associations, les entreprises? Est-ce que financièrement, vous participez ou je suis dans une mauvaise voie? Sans dévoiler...
Sur la création de leur entreprise, nous, mon associé, nous avons participé à la mise en place du capital. Après, c'est pas du mécénat parce que nous y croyons et puis nous ne sommes pas trompés parce que l'entreprise vit toujours, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas du mécénat.
Alors, je vous coupe, Philippe. Apportez une précision entre mécénat et sponsor et vous participatif. Là, vous êtes un mécène.
Alors, un mécène, c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent dans quelque chose en n'attendant pas un retour. C'est-à-dire qu'il fait ça, je dirais, c'est pas gracieux, mais bon, il va apporter de l'argent en disant, bon, mais ça va aider quelqu'un. Ça s'appelle du mécénat. Quand on pose de l'argent dans une entreprise en termes de capital, c'est qu'on croit à l'entreprise et à la vie de l'entreprise. Ça lui permet de démarrer l'entreprise et de commencer à pouvoir financer les premiers coûts qu'elle engendre.
Est-ce que, alors, cette entreprise iconique, c'est bien ça, il est avec un associé aussi? Ils sont combien?
Ils sont quatre associés maintenant. Ils sont quatre associés. À la base, ils étaient trois. Maintenant, ils sont quatre. Ben, ça a permis de faire rentrer un petit peu de l'argent dans ce qu'on appelle le tour de table. Voilà, ce qui permet d'apporter un petit peu de la trésorerie pour faire vivre l'entreprise.
Alors, vous m'avez dit, c'est de la réalité virtuelle. Ils travaillent avec qui, alors?
Mais là, ils ont un gros client qui est le groupe américain Namco Bandai, qui leur a commandé un premier jeu qui est sorti la semaine dernière. Et donc, ils seraient dans le projet d'en avoir un second. Alors, ce sont des montants relativement importants.
Est-ce que c'est un secret d'État ou non? Vous pouvez nous dire à peu près...
Un jeu comme ça, ça dépasse le million d'euros.
Quand même. Ouais, quand même. Donc il est parti, le petit a quitté le nid, quoi, on va dire. Il vole de ses propres ailes ou pas?
Il a 43 ans, ça fait quelques années qu'il nous a quittés.
Non, mais voilà, mais il a commencé chez vous quand même, en bas de l'échelle, c'est ça que j'aime bien.
Il a commencé au bas de l'échelle dans un atelier où il était au magasinage. Il n'est pas rentré. Non, il a connu un petit peu ce qu'on appelle les parties dures d'une entreprise.
Il le fallait, c'est bien, il s'en souviendra. On arrive presque au terme de cette émission. Donc, vous m'avez parlé, Philippe, ce qui est important, donc vous êtes toujours plus ou moins actif, on va dire. Un garçon sportif ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est comme un fumeur, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, vous aussi. Mais vous m'avez dit, je vais privilégier le côté santé, le côté famille maintenant. Je vais un peu me détacher... Tout en gardant un œil, bien sûr, mais vous allez plus, être en dilettante, pas dans le jardin, comme un collègue vous a dit, mais...
Non, je le suis déjà, parce que la vie que j'ai connue en tant qu'en période d'activité n'a rien à voir avec la vie que j'ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même quelques participations avec un ami de temps en temps, un peu de sport... Non, ça n'a plus rien à voir. J'avais une vie très intense auparavant. Elle est beaucoup plus tranquille et reposante maintenant. Hein. Heureusement.
Alors, je vais... Toujours pareil, je reste sur le côté famille. J'ai dit, vous avez été... Est-ce que vous avez passé plus de temps, à l'extérieur qu'à l'intérieur? Est-ce que votre épouse, Lucie, a supporté tous ces changements, ces déplacements? Elle était un peu bien obligée parce que vous faisiez bouillir la marmite, on va dire. Mais est-ce que ça n'a pas été un peu pesant pour elle, sans dévoiler de secrets de famille, bien sûr, Philippe?
Non, probablement que ça n'a pas toujours été facile. Vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise, ce n'est pas toujours très rigolo. La vie d'un chef d'entreprise, il ne faut pas s'attacher à voir ce qui est en périphérie. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des moments très agréables, il y a des moments très compliqués. Ce n'est pas du tout la vie d'un fonctionnaire.
Voilà. Je vais revenir un dernier instant parce que dans la page d'accueil, j'avais dit de vous que vous étiez un humaniste. Un humaniste, pourquoi? Parce que, et ça me fait plaisir d'en parler, parce que quand vous avez monté votre entreprise à Signes, vous avez fait travailler beaucoup de cuirsois qui étaient dans le besoin.
J'ai recruté pas mal de cuirsois, oui. Alors, c'était pas dans le besoin, c'est des gens qui recherchaient un emploi. On a pu leur offrir pour certains une formation et aujourd'hui, je les en remercie. Il y a quelques personnes qui ont continué à faire du chemin dans ce métier-là et qui nous ont quittés pour intégrer d'autres structures aujourd'hui, peut-être un peu plus sécurisantes que celles du monde du privé. Mais non, ce que j'ai fait, je l'ai fait spontanément. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, quoi que ce soit.
Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est quand même... Tous les cuirsois et peut-être d'autres personnes que vous avez embauchées chez vous qui ont eu un sursaut de vie, on va dire. Bon, j'exagère toujours un petit peu, moi, dans mes termes, mais ça leur a fait du bien de passer par vous.
Ils ont appris pour certains un beau métier, qui était le métier de la chaudronnerie aéronautique. Certains me l'ont très bien rendu. Ça, c'est très important. Il y a quelques personnes que je ne remercierai jamais assez de leur honnêteté et de leur implication. Il y en a d'autres qui ont choisi d'autres chemins, mais il ne faut pas avoir de ressenti vis-à-vis de ça. C'est la vie.
Bien sûr. Philippe, alors je terminerai toujours. Je dis, votre perception de l'avenir, là, à court et moyen terme, vous voyez comment là, l'avenir pour vous, la société en général, on va dire, comment vous percevez ça?
Enfin, en ce qui me concerne, je pense que je suis plutôt en fin de carrière, en fin de... Si je regarde au niveau national ou international, je reconnais que par rapport à ce que nous avons pu vivre, nous, il y a 30 ou 40 ans en arrière, ça devient de plus en plus compliqué. Quand on voit les conflits qui se passent autour de nous à travers le monde, bon, je dirais que pour nos enfants et nos petits-enfants, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué que ce que ça a été pour nous.
Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Alors, vous m'avez dit, vous avez un petit enfant, votre
petit-fils. Un petit-fils,
voilà, petit-fils. Qui a quel âge?
Qui a 13 ans.
13 ans.
Qui va faire 13 ans au mois de juillet.
13 ans, c'est beau ça. Lui, il est en quelle classe là,
actuellement? Il est en 5e.
Est-ce qu'il a déterminé son avenir? Est-ce qu'il sait ce qu'il va faire? Pas encore, c'est
pas
encore un peu tôt.
Il est trop jeune, oui. Il est trop jeune.
Il est trop jeune. Donc, vous vivez toujours à Cuers, hein, sans dévoiler, voilà.
J'y ai toujours vécu, voilà. Je crois que j'y terminerai ma vie.
Bon, c'est sûr, je sais où vous habitez, on ne va pas faire un jeu de mots là, mais votre épouse travaille toujours?
Non,
elle a arrêté aussi.
Mon épouse est de mon âge, donc oui. Elle a arrêté de travailler il y a fort longtemps aussi.
Alors, je me souviens qu'à l'époque, elle prenait le car, elle arrivait de Toulon, il me semble. Non, c'était pas ça, elle travaillait sur Toulon?
Oui, elle travaillait dans un cabinet dentaire sur le boulevard de Strasbourg à Toulon.
Est-ce qu'elle a fait toute sa carrière dans ce cabinet ou elle a changé?
Elle a terminé sa carrière dans les cabinets qu'elle reçoit.
Eh bien voilà, c'est la boucle est bouclée. C'est très bien. Donc là, pour l'instant, on est bien. On va lancer une dernière page de pub et puis je vais conclure. Alors, l'émission touche à sa fin, pardon. Je remercie Philippe d'être venu parce que, comme il m'a dit, j'accorde très rarement des interviews. C'est pire qu'un chanteur, il m'a dit. Alors, je l'ai précisé, il préfère être dans l'ombre, mais pour moi, il a fait ce déplacement et encore, je le remercie. Donc, pour cette interview, à brûle-pourpoint, en direct, sans artifice, sans rien. Et mon prochain invité, donc... sera M. Anthony Avella, qui a été un jeune prodige du roller en France, et Varois qui plus est. Je salue et remercie les Gapoziennes et Gapoziens, sans oublier ceux des alentours, Cuers, Pierrefeu, Pugéville, Carnoul, Lacroix, un tantinet sur hier, d'avoir été à l'écoute de l'émission Sans Filtre by ALM sur Gapo FM 100.9. Ciao, buonasera a tutti.